Porque el corazón no quiere. Héritée du politique, enfant de militantes latino-américaines en exil.
Je m'appelle Emiliano, je suis né en Uruguay en 79. Un an après à peu près que mon père soit sorti de prison, un militant Tupamaros. J'ai arrivé en France, j'avais un an.
Je m'appelle Paulina Caro Astorga, je suis née au Chili en 1974. J'ai été faite par mes parents avant le coup d'État et je suis née après le coup d'État.
Donc je m'appelle Américo, je suis née en 1974 à Buenos Aires, Argentine, de parents uruguayens.
Je m'appelle Elsa, Elsalias Torres Goitia. Je suis née dans la première moitié des années 80 d'un père bolivien qui est passé par le Chili, réfugié politique.
Moi j'utilisais le prénom Demeterio. Je suis née au Mexique. Mon père et ma mère sont d'origine guatémaltèque.
Je m'appelle José, je suis de parents chiliens, né au Chili, avec deux exils, c'est-à-dire le coup d'État au Chili, exil en Argentine, coup d'État en Argentine, exil en France. Voilà, et puis depuis 40 ans, j'ai grandi en France, et avec justement voilà, toute cette histoire, tout ce passé.
Volet 2, faire avec. De cette histoire, de résistance et de répression, qu'est-ce qui est dit, raconté, gardé sous silence? Quelle trace elle laisse chez nous et chez les parents? Ce volet parle de transmission, plus ou moins heureuse, plus ou moins volontaire. De la violence qui suinte, en sourdine ou en éclat, du rapport au bled, de la rage, des coupures ou les liens cousus à cette histoire. Les marques sont profondes et il nous faut faire avec, avec ceux et celles qui sont restés, celles et ceux qui sont partis.
Comme on disait tout à l'heure, avant qu'on enregistre, quand je te disais que c'était chouette cette initiative là, de parler des enfants réfugiés politiques latino-américains, c'est que ça ressurgit par cycle des fois ou par moment. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est toujours ressorti dans ma vie à des moments où je ne m'y attendais pas ou des moments où on s'attendait. Donc, par exemple, ça ressurgit quand on va en Bolivie voir ma famille. On essaie d'y aller tous les 4 ans, mais des fois, c'était un peu dur financièrement. Donc, on y allait tous les 6, 7, 8 ans. Donc là, ça ressurgissait parce qu'à chaque fois qu'on allait au bled, tiens, j'avais des nouvelles qui arrivaient dont j'étais pas au courant. Les oncles qui parlaient ou ils parlaient entre eux aussi en espagnol. Alors, je comprenais pas tout, moi, adolescente. Mais là, tu avais des bribes de l'histoire qui revenaient parce que c'est une histoire, je trouve, qui est racontée. J'avais lu un bouquin qui était super juste sur la transmission de la mémoire traumatique des parents aux enfants, quoi, des réfugiés politiques chiliens en particulier, c'était là. Elle est transmise en pointillé, quoi. On n'a pas tout, on n'a pas tout depuis le début, on n'a pas tout dans le même temps, ça va être par omission que c'est raconté, par mensonge aussi, des fois pour cacher des trucs, ou peut-être enjoliver le passé, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, c'est plein de fantômes, c'est plein de non-dits, des trucs qui alimentent aussi notre fantasme, parce qu'on s'imagine des trucs qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les trucs dessus. Mais du coup, j'ai toujours su son histoire de réfugié politique. J'ai toujours su qu'il avait posé sa petite bombe là et tout. C'était sa fierté en Bolivie. Et son activité armée, là, ses convictions de lutte armée, sa lutte anti-impérialiste très fort. Par contre, c'est marrant, tu vois, avant que je te rencontre, j'ai voulu lui en parler un petit peu parce qu'il me manquait quelques dates. Je me disais au cas où quand même. Et puis il m'a refait l'histoire de son parcours depuis son adhésion au Parti communiste en 66 jusqu'à son arrivée en 74 à Poitiers et la rencontre avec ma mère. Et il a passé peut-être un quart d'heure sur chaque partie, c'était très bien organisé dans sa tête. Par contre, la partie arrestation au stade de Santiago du Chili, elle n'existe pas dans son récit. Alors qu'elle a pu exister d'autres fois, quand j'avais 16 ans, je me rappelle, j'avais fouillé, c'est pareil, ça a ressurgi en 98 quand Pinochet est arrêté à Londres. Là, il y a tout qui ressurgit. Mon père, il essayait de dormir, de vivre avec son histoire comme les autres et d'oublier petit à petit. Et puis là, il y a tout qui a surgi avec l'avocat Garçon là, qui a décidé, le juge là-bas en Espagne, de collecter beaucoup de témoignages et tout. Et du coup, il a dû replonger dans son histoire. Et moi, j'avais quoi, 14-15 ans à l'époque, en 98, 15-16 ans, je ne sais plus. Et j'ai replongé dedans, enfin j'ai plongé dedans aussi à ce moment-là. Les choses qu'il ne voulait pas dire, je suis allée fouiller toute seule dans les dossiers, où j'ai vu son nom sur la liste, où on voit des noms de... Ça fait drôle, des jeunes qui sont morts, qui ont 4 ans plus que moi à l'époque, assassinés, torturés, il est disparu, tout ça. ça ressurgit l'histoire, ils sont obligés d'en parler, même s'ils sont fiers, ils sont obligés. Je me rappelle pareil, un autre truc, le jour où en fait, je ne sais plus quel diplôme de fac, une licence, un DUG, je ne sais plus, on est en train de boire l'apéro tous les trois dans le salon, pour aussi mon DUG, je crois, de ma deuxième année. Et on boit l'apéro, on prend le champagne et tout, puis je vois que mon père, il a une attelle, je vivais plus à la maison à l'époque, et je dis, tiens, t'as une attelle, t'as encore fait des conneries, parce qu'il jardine beaucoup, il coupe du bois, machin. Et ma mère me dit, ben non, puis tu sais, ils vont l'opérer bientôt, ton père, il avait le coude cassé. Je dis, quoi, il avait le coude cassé Il me dit, bah tu sais, sa mère est venue, j'avais oublié, parce qu'on m'a tellement battu au stade, à Santiago, en 73, que j'avais oublié qu'on m'avait cassé le coude et qu'on me l'avait luxé dans les deux sens, là. Et ça, c'était, ça ressurgit 30 ans après. Et je me rappelle avoir pleuré ce jour-là parce que j'ai fêté mon diplôme et j'étais contente. Et je me suis dit, putain, il y a encore cette histoire qui revient faire de la peine et hanter, quoi. Tu vois, la torture qu'on avait fait à mon père. Donc, elle est toujours là, en fait, cette histoire.
Puis, 40 ans, j'ai grandi en France. Et avec, justement, voilà, toute cette histoire, tout ce passé derrière. Et voilà, qui amène aussi, voilà, à la... aux préoccupations et à ma vision du monde. Enfin, ça a un fort impact sur ma vision du monde et sur plein d'autres choses, hein, comment ça m'a façonné en tant que personne, mes préoccupations, mes démons et tout ça, quoi. J'ai baigné dans un truc qu'aujourd'hui, je pense, qui est fondateur d'une rage, une violence qui est au fond de moi-même, que je sais pas quoi en foutre, quoi.
C'était parlé chez toi ?
Il y a des choses qui étaient parlées, ouais. Ouais, pas mal. Mon père racontait vachement... En plus, ouais, ils en rigolaient, hein, avec ses potes de parti, avec les autres Chiliens, ils en rigolaient, mais... Ou des fois, on savait ce qui était arrivé à telle copine, on savait que son fils, il était issu d'un viol par un flic, on savait de choses comme ça. Après, c'est pas... Enfin, tu vois, t'en parlais pas tous les jours, quoi. On connaissait les histoires des uns et des autres.
Eu à vivre les uns les autres, c'était peut-être compliqué pour eux, pareil, quoi, de nous raconter dans les, enfin voilà, d'être dans un discours, on le sait, quoi, quand les gens ont vécu des périodes traumatisantes dans l'histoire, ils sont pas trop dans la parole avec les primo-descendants. En général, ils arrivent à se lâcher un peu avec les petits enfants, à dire des choses avec leurs propres enfants, c'est compliqué, quoi. C'est difficile de dire, voilà, j'ai été humiliée, on m'a pris ma dignité à tel endroit, à tel moment.
On ne sait pas parler, de toute façon, rien n'est parlé chez nous, on n'en parle pas. Ça reste quelque chose de très flou tout le temps, tout, quoi. Je veux dire, pas que la violence, pas que... tout est flou. Tout existe dans un espèce de truc, un magma de, en gros... Il y a la dictature, il y a des gens qui sont contre, et du coup, ils doivent partir. Ce qui n'est pas du tout la vérité, vu que c'est pas comme ça que c'est passé, mais c'est un peu l'histoire qu'on a quand on est petit. Et du coup, on parle de rien. Donc, j'ai pas de récit. Quand je suis petit, je vais m'y intéresser plus tard. Et pour moi, la violence, elle sonne par tous les ports. Mais elle est toujours minimisée. Ma mère, quand elle arrive à Paris, en France, elle va être secrétaire du CIRAO, où, basiquement, ils font du travail de droits de l'homme et de soutien aux prisonniers. Donc, on sait qu'il y a des prisonniers, en gros. Mais je crois que j'entends jamais vraiment parler de torture. Je sais que c'est dur, mais il n'y a pas de... On n'en parle jamais. Jamais ça en parle. S'il y a un moment, ouais, un moment par bribes, quoi, on sait que, tiens, le père a certainement été torturé. Le sous-marin, quoi, le sous-marino. La tête dans l'eau, machin, etc. Bon. Mais non, on n'en parle pas. C'est qu'après, très tard, je me rends compte toute la violence de ce moment-là. Beaucoup de gens avec qui militaient sont disparus, beaucoup vont en prison. et beaucoup sont tués.
On a connu cette violence, oui, mais c'était une violence liée à l'exil, parce qu'ils avaient des faux papiers. Donc nous, on était interdits de parler comme des Guatémaltèques, et surtout interdits de dire qu'on venait du Guatemala. Donc nous, enfants, on a connu cette interdiction qui était assez sévère. Quand on a désobéi, on a eu des coups. Et oui, mon père, il a hérité de ce traumatisme. Surtout avec le silence, je pense que cet héritage, pendant toute mon enfance, c'était l'adolescence, c'était le silence. Surtout pas parler. Ma mère, elle nous parlait, mais juste des quelques bribes en disant qu'ils étaient donc dans la guérilla et qu'ils avaient fui.
Oui, moi je l'ai toujours su parce que de toute façon, quand t'es enfant, même quand on veut pas t'en parler, forcément des tortures, on parlait de ça aussi. Des mois d'emprisonnement, c'est les camarades de mon père, des amis à lui qu'il avait bah, quand j'étais petite, je sais pas, vers 6-7 ans, j'écoutais aux portes, quoi. On écoute, on les entend parler, les adultes, ils boivent un petit coup, il y a l'émotion qui remonte, les souvenirs, et c'est là que j'ai commencé à apprendre des choses que lui ne m'avait pas dites de façon confidentielle ou orale, comme ça.
Enfin, on connaissait les tortures, moi je me souviens étant petit avoir regardé des films et des livres de descriptions, des revues de descriptions de torture, notamment en Uruguay ou en Argentine ou au Brésil, des trucs. J'ai baigné là-dedans, quoi. Vraiment. On savait ce qui se passait au Guatemala, enfin, tu vois, le génocide au Guatemala. On connaissait ce qui se passait au Nicaragua. En plus, on le sait, hein, rien que l'exemple de Victor Jara ou de Ángel Parra qui était en camp de concentration, ils ont sorti un disque, tu as toujours une espèce de truc où tu parles d'une manière. En plus, les Chiliens, ils ont ce truc de... Je dis les Chiliens, mais c'est pas pour exclure les autres, hein, ce truc de prendre tout à la rigolade. Tu vois. Et moi, je savais que mon père, entre les séances de torture avec ses potes, il faisait des concours de blagues. Voilà, parce que... Et tu le vois, le paradoxe de ce disque Chacabuco qui a été enregistré dans un camp de concentration, tu sais que c'est des gens qui sortaient du Stade National, le mec qui a lancé cette initiative, il est mort de ses blessures de torture en 75, c'est-à-dire 2 ans après le coup d'État en Bulgarie. Enfin, tu vois, tu as des espèces de trucs qui sont quand même assez hyper forts et... qu'on savait à l'époque, oui, on en parlait. Après, on ne connaissait pas tous les détails, on ne connaissait pas toutes les histoires. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites, qu'on a su après. Notamment par rapport à la vague de gens qui ont fait des retours fin des années 70 pour aller faire des myristes surtout, et puis qui se sont fait descendre à la sortie de l'avion, enfin des trucs comme ça. Mais on savait que le père d'un tel avait été descendu, torturé, enfin, c'est des trucs qu'on connaissait. Ouais.
Moi, je ne sais pas si c'est pour parler de la période de l'histoire, à part Victor Jara, bien sûr, qui reste pour moi, pour nous d'ailleurs. De la Luz Mila Carpio, parce que c'est propre à la Bolivie, c'est trop beau. Et la chanson qui dit « Avec les os de Pinochet, nous ferons des hochets pour nos enfants, pour que les enfants des disparus puissent jouer, je sais pas quoi. » Les paroles sont dures, hein. Mais je ne connais pas l'air. Et je...
Ouais. Voilà.
Il y a tellement de chansons.
Ah, Victor Jara,
oui. Tu en as une en particulier ou...
L'Arca, si tu en as.
Oh non. Oh, il y a Ho Chi Minh, elle est belle.
Ah, le derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir en paz. Deja la vida volar, parce que c'est celle que j'ai tatouée. Puerto Montt.
Muy bien, voy a preguntar. Por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. murió sin saber por qué. Le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sujovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt.
Toutes ne mouraient pas, mais toutes étaient frappées. En plus de la torture, des disparitions et des exécutions sommaires, les dictatures ont usé de cette arme, habituelle aux États, la prison. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu s'enfuir, la violence carcérale a fait son œuvre, et comme toujours, elle frappe aussi les proches. Témoignage des enfants de prisonniers politiques de la prison numéro 1, appelée Liberta, du nom de la ville où elle se trouve en Uruguay. Un texte écrit par Mariela, qui se trouve au musée de la mémoire de Montevideo.
Te recuerdo, Amanda.
Je me souviens de toi, Amanda.
Lo más temido por niños y niñas visitantes del penal de Libertad era Amanda.
Ce que craignaient le plus des enfants qui venaient en visite à la prison de Libertad, c'était Amanda. Une femme fanée, avec des cheveux raides et cendrés, et une cape noire. La première apparition, puisque nous le vivions comme ça, c'était à la fouille. Après avoir fait la queue pendant approximativement deux longues heures, les garçons de plus de 12 ans entraient par une porte, et les filles, les petits-enfants et les femmes par une autre.
Allí nos esperaban dos mujeres, siempre distintas, con máscaras de maquillaje.
Là, nous attendaient deux femmes aux masques de maquillage, dont les mains gelées parcouraient notre corps à la recherche d'objets, je n'ai jamais su lesquels, qui ne pouvaient pas être introduits. Elles avaient les mains si froides qu'on les soupçonnait de les exposer dehors par la fenêtre toujours ouverte de cet endroit, avant de nous recevoir.
En algún momento de las revisaciones, Amanda entraba.
À un moment donné de la fouille, Amanda entrait. Et alors, c'était sûr que tu passais 10 ou 15 minutes nues, pendant qu'elle, avec sa tête de chien, vérifiait les vêtements qu'on te faisait enlever un par un. Si tu avais oublié une étiquette, vlan, pas de visite. Ça, c'était le premier acte.
Aparecía de la nada.
Le deuxième commençait si tu avais réussi à rentrer en salle d'attente. Elle surgissait de nulle part, elle se matérialisait. On ne la voyait jamais venir, et elle apparaissait dans les cercles d'enfants qui discutaient à voix très basse. Et elle criait comme une furie.
Acá no se viene hablar.
On ne vient pas ici pour parler.
Se paralizaba todo. Congelaba la escena.
Tout se paralysait. Une fois la scène congelée, elle s'adressait à un des enfants, qui pouvait avoir 7 ou 8 ans, et disait, vous êtes en train de parler de... Répondez. L'enfant disait, non. Non quoi? Non, madame Amanda.
Ah,
la prochaine fois, j'annule ta visite. Si on avait de la chance, elle s'éloignait, laissant une épée flottante sur la tête de cet enfant, presque sûr qu'il n'arriverait pas à voir son père. Bien que des fois, si. Alors, on avait inventé un sortilège pour nous protéger. Quand elle s'éloignait, on chantait tout bas. Batman. Pendant qu'elle s'éloignait, en volant avec sa cape vers le fond.
Tercer acto.
Troisième acte.
El corredor infinito.
Le couloir infini. Une longue file d'enfants, entre 1 et 11 ans, la suivait à travers le couloir infini. Infini parce que même si ce n'était pas plus de 15 ou 20 mètres, avec Amanda devant, le temps et la distance n'existaient plus. Un demi-tour sur son talon droit nous introduisait dans le dernier combat.
Qui est-ce qui se fiche de moi ?
Qui se está burlando de mí ? Immédiatement, comme pièces de domino, les premiers de la fila se dan vuelta y miraban hacia atrás.
Immédiatement, comme des pièces de domino, les premiers de la file se retournaient et regardaient derrière, certains pleurant déjà, parce que le ton de la voix était puissant. Il t'enveloppait la tête et parcourait la colonne vertébrale comme une vipère fuyant vers la terre. Paralysie totale, les pleurs des plus petits, ma voix de fillette de 11 ans, j'ai toujours été la plus âgée de ce groupe. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai compris que mes yeux devaient regarder au sol, parce que ses yeux étaient comme le carrelage. Que non ? Que jamais on se ficherait de vous. Vous qui ? Vous, Madame Amanda, avec une voix d'agneau soumis. Ah bon ? Satisfaite de mon ton soumis, bien réussi. Ouvrant sa cape au milieu du corps, montrant l'arme qu'elle sortait parfois sur la tête de ceux du premier rang. Demi-tour d'Amanda, quel soulagement. On la voit à nouveau de dos, la file avance enfin. Le soleil, à travers l'ouverture d'une double porte, annonçait l'image qui nous attendait.
Última escena. ¿Cuál de todos estos pelados de gris y con bigote es mi padre?
Dernière scène. Lequel de tous ces chauves moustachus habillés de gris est mon père? Eux, ils ne pouvaient pas venir te chercher, ni te toucher. Chaque enfant doit s'approcher de son père. Pour les plus petits, c'est une tâche ardue, mais les pères les aident. Ils les appellent à voix basse.
El colchón sonoro desciende.
Le fond sonore diminue, chacun avec son père vole sur la balançoire, lui raconte l'école, les milanesas et le poulet que nous mangeons avec douleur, que nous taisons, en son honneur. À la sortie, déjà plus tranquille, surtout si tu avais réussi à voir ton père. Tu retournais dans la queue pour la dernière fouille.
Te recordamos, Amanda. Todos los hijos de los presos políticos de libertad.
Nous nous souvenons de toi, Amanda. Nous, tous les enfants des prisonniers politiques de Libertad.
Lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar.
J'ai pas du tout ce truc de mémoire de pointillé et tout. Moi, je sais pas, mes parents, je sais quoi. Eux, je sais pas, ils ont opté par ne rien cacher, ne rien faire comme s'ils n'avaient pas eu. Mais vraiment, moi, à 6 ans, je pouvais poser n'importe quelle question concernant ce sujet. Mes parents me répondaient. De toute façon, j'avais pas le choix parce qu'ils m'ont envoyé en Suède dans des camps. Donc, j'étais dedans, quoi, tu vois. Donc, donc oui, j'ai pas eu le choix non plus, hein, en fait. Oui, c'est plus compliqué qu'une question de question d'interrogation ou de trucs comme ça. Mais vraiment, donc. Mais par contre, c'est pas forcément vrai pour d'autres copains uruguayens avec qui j'ai grandi et tout. Où eux, il y avait plus de camouflage et tout. Donc voilà, c'est vraiment. Ça, c'est un constat que je peux faire maintenant avec toutes ces années qui sont passées. C'est que pour mon frère et moi, ils nous ont rien caché et j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Au final, si je devais choisir, quand je vois les résultats à côté de moi ou les trucs, je me dis faut dire les choses. C'est pour ça que moi, mon fils, très tôt, je n'ai jamais menti sur son grand-père, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est mieux. Bon, en tout cas, ça a plutôt bien réussi chez moi et mon frère.
Et c'est que quand j'avais 20 ans, que j'ai entendu, que j'ai eu une discussion avec mon père sur ça. Mais mon père, il refuse que ça soit documenté, qu'on parle de ça, qu'on prenne des notes. Donc il est encore en silence, lui. Quand il y a cette violence, c'est une certaine violence, un héritage de guerre que, lié au silence qui fait que mon père a dû partir du pays. Et que il y a eu des délations de l'identité de certains guerriers roses parce que les personnes qui étaient organisées, qui avaient connu la séquestration de leur famille, recherchaient à ce moment-là les ossements de leurs familiers. Et en échange d'informations, ils avaient fait de la délation. Et du coup, il y a eu publication d'identité de guerrieros au Guatemala. Et du coup, lui, il était dans cette liste et il allait partir. Après, moi, je pense que j'ai un père qui a perdu une partie de son humanité dans la guerre. Et moi, j'ai hérité de beaucoup de violence de sa part. Violence physique. J'ai un père autoritaire, clairement. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, où il s'est calmé. Enfin, où il nous a quittés. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais plus à faire à lui, donc plus à faire à ses violences. Mais mon père, il est un peu touché du cerveau par rapport aux violences qu'il a vécues.
Par contre, ça peut laisser des pètes aussi un peu, parce que enfin, moi, je suis plus fragile, peut-être, psychologiquement sensible. Mais moi, ça m'a quand même un peu fait faire des cauchemars ou être très sensible à la torture des autres. Pas que celle de mon père, justement, ceux qui y passent encore là. Voilà, et ça m'a pas mal quand même fait de traumatisme, même si je l'ai pas dit, parce que ça se disait pas. En plus, à l'époque, nos parents, ils allaient pas chez un psy. Hein. On les a pas accueillis en France en les envoyant chez des psychologues. Ça leur aurait fait du bien, franchement. Je sais que quand mon père, on lui a proposé ça, genre 20 ans après, il a fait non, mais là, c'est trop tard, je me suis démerdée tout seul, quoi. Je vais pas aller voir un psy maintenant, j'ai essayé de vivre avec ça. Vous allez pas tout me refaire remonter. Mais moi, ça m'a laissé quand même des traces comme ça, d'avoir su des trucs. Moi, je peux, depuis toute petite, et puis en vieillissant, c'est pire, même ado, quand on est un peu plus dur, je sais pas. Les films de torture, dire, s'il y a des cris, moi, je coupe le son, je regarde pas, je peux pas, quoi. Il y a des trucs, j'arrive pas du
tout. Ouais, ça a surtout laissé des marques, je trouve, c'est chez les parents aussi, quoi, tu vois.
Bah, évidemment, chez les parents, mais
elle a fait une attaque à 60 ans, tu vois, pour moi, il n'y a pas de hasard, tu vois, c'est la vie qu'elle a eue. Ouais. Enfin, ne pas s'occuper de soi, quoi, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Mon père, il a eu tendance à porter sur la bouteille dans des périodes de sa vie aussi, tu vois. Donc, à tard, en plus, tu vois, pas genre à l'époque où, justement, il était très discipliné et tout, quoi. Mm. Donc, tu vois, voilà, ça laisse des marques chez les vieux, quoi, tu vois, ça, c'est sûr, tu vois.
Ma daronne avait tellement un caractère que, je veux dire, il fallait qu'il file doux, hein. Elle l'a tenu, mais oui, ça leur a laissé des traces aussi, mais je trouve que ça, la mémoire traumatique, moi je trouve qu'elle jaillit sur nous aussi. Enfin, moi en tout cas, je l'ai senti comme ça. Moi, même avant, hein, quand j'étais enfant, ado, je voulais pas aller en Bolivie. Hein. C'était le stress d'y aller, ça me faisait chier. En plus, on avait 2 mois de l'été, donc tu loupais aussi bon, les copains, les cousins, les vacances. Mais en plus, je me disais, oh là, qu'est-ce que je vais encore retrouver là-bas, là, dans ce pays, avec tout son passé, qu'est-ce que c'est le lot que je vais me ramener, qu'est-ce que ça va me récolter, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau, lui, qui va aller voir, parce que des fois, mon père, on allait au bled, normal, il disparaissait quelques jours, voir, je ne sais pas ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fomentait, moi, je m'imaginais des trucs, qu'il allait y rester, qu'il allait remettre ça, qu'ils allaient se venger, et voilà, des trucs comme ça, et j'avais jamais envie d'aller en Bolivie, quoi, ça voulait dire que c'était la tristesse aussi, la tristesse, les non-dits, le passé.
Moi j'avais envie d'aller en Europe.
Moi pas trop, hein. Puis t'as toute la famille, ta famille ils t'aiment trop, en plus avec l'exil et tout, ils t'adorent, t'as une grand-mère, un grand-père qui t'embrasse, des oncles, des tantes, des cousins qui t'embrassent, enfin surtout les adultes, et toi tu les aimes mais tu les connais pas, c'est très spécial, hein, ça fait drôle. Hein. Et moi il y a que quoi, ça va mieux maintenant, hein, mais oui, vers 22 ans que je me suis un peu réconciliée avec le continent là-bas. Parce qu'avant c'était un poids d'y aller, j'avais pas envie. Ma famille aurait voulu que j'aille vivre un an, j'ai jamais voulu, c'était trop. Et j'arrivais pas à leur dire pourquoi. Je dis, mais moi, je suis la fille de l'exilé. Revenir là-bas, c'est trop dur. Je sais pas. Je peux aller voir de psy pour ça. Pourtant, j'en ai vu un, mais je vais pas trop parler de ça. J'aurais dû. Mais c'était pas si facile comme bagage, même si je trouve que c'est plus positif, 10 fois plus que négatif. Bon,
après,
mais
c'est pas
toujours évident.
En même temps, l'exil, enfin, en tous les cas, en ce qui concerne la famille, mais je sais que ça touche aussi d'autres. Enfin, le noyau familial peut être méchamment affecté. Mon père est devenu violent en arrivant en France. Il était un peu comme le sont les hommes de son milieu là-bas, mais ici, ça s'est devenu très, très, très fort. Voilà, pour moi c'est la critique, elle est plutôt positionnée à ce niveau-là. Parce que je ne supporte pas, j'ai une véritable aversion pour les gens qui disent, qui ont un discours qui ne suit pas dans les faits, quoi, dans les gestes et dans les actes. C'est quelque chose que je constate trop. Et je pense que c'est de les avoir observés, eux, ces adultes-là, qui m'a fait mettre le doigt là-dessus, de manière très saillante. Quoi. Ça m'est très, très, très visible. C'est-à-dire, nos parents voulaient changer le monde, ils agissaient à un niveau macro, sociétal, et peut-être qu'à un niveau interindividuel et dans les relations familiales, affectives, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas trop là, quoi. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas en capacité d'être là non plus, parce que vu ce qu'ils ont eu à vivre les uns les autres, c'était peut-être compliqué pour eux, pareil, quoi, de nous raconter dans les. Enfin, voilà, d'être dans un discours.
Ça chantait,
c'est
le
temps ?
Ça chantait ?
Ouais.
À la maison, on chantait pas, on chantait peu. Mais par contre, on écoutait beaucoup de musique militante. Et c'est vrai qu'on chantait beaucoup à côté, dans la communauté, on chantait. On chantait des chants, bon, typiques, tous les 11 septembre, on chantait des chansons pour le 11 septembre. Et puis après, comme en plus nous on a fait partie d'un groupe de musique, on chantait aussi, on dansait.
Et si tu choisissais une chanson pour illustrer ton... Tu veux choisir une chanson qui pourrait parler de ça ? Ou une chanson qui évoque ton lien ?
Il y en a une... Il y a... Madre, déjame luchar yo a la primera.
Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo. Y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Déjame luchar, madre, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes, madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar.
Est-ce que ça te fait aussi un truc à un moment où il y a une part émotionnelle absolument irrépressible dans le lien avec ces trucs-là ?
Total.
total. Il y a des choses... C'est impossible de les évoquer sans rentrer dans une forte émotion. Des chansons qui sont impossibles à écouter sans avoir la gorge qui se noue. Quand tu penses à tout ce qu'ont vécu nos peuples, tout ça pour que ce système continue à grossir et à tout avaler, tu te dis c'est impossible.
Y porque te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan y me hiciste que le diera aquella camisa vieja con que yo jugaba mientras. Y si eras buena cristiana, espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar.
Il y a une relation à la violence et à la haine qui me dépasse. Des fois, je suis assez admiratif de regarder d'autres camarades où j'ai l'impression que leur rage, ou dans leur envie de combattre, ou dans leur truc comme ça, c'est quelque chose qu'on arrive à contrôler, utiliser de manière bénéfique. Et des fois, moi, j'ai l'impression d'être submergé par une espèce de violence interne que j'associe à tous ces déchirements, à toute cette violence politique, à toute cette violence voilà, qu'on peut... casé dans le truc injustice. Enfin, voilà, mon père, il a été torturé en Argentine. Il y a eu une période où on ne savait pas ce qui se passait. Il a disparu un moment, torturé, tout le bordel. Et puis après, il a été retrouvé. Mais pour être retrouvé, ben voilà, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ma mère avait dû être violée par un flic qui a bien voulu lui rendre un service, mais contre... Enfin, tu vois, c'était donnant-donnant, quoi. Et j'ai baigné dans un truc qu'aujourd'hui, je pense, qui est fondateur d'une rage, une violence qui est au fond de moi-même, que je sais pas quoi en foutre, quoi.
J'ai plutôt... En fait, j'évite d'aller dans les manifestations parce que ça me met un peu la haine contre les flics. C'est parti... Je fais partie un peu des gens qui aiment aller à la baston, et moi j'ai pas de peur à exploser des flics. J'ai décidé de pas le faire pour beaucoup de raisons, mais moi mon rapport à la répression, c'est une violence qui naît en moi, que j'ai en moi et qui cherche à sortir. Justement, sur ce point, c'est là où j'ai des remontées encore, des accès de violence, et je sais que je rentre en contact facilement avec une partie de moi qui, oui, chercherait à... Je me dis qu'il ne faut pas que j'alimente ça. Donc j'essaie de ne pas alimenter cette graine, cette plante, disons. Parce que je me dis que si je l'alimente, ben, que je risque de faire des choses que j'ai décidé de ne pas faire. Je pense que les gens qui font ça, ils sont légitimes, je les respecte. J'espère ne pas faire ce choix. Du coup, oui, la répression est liée, la répression de l'État. Je pense qu'elle ne devrait pas exister, évidemment. Et c'est complètement indignant que les... les flics qui violent un jeune par accident, n'aient aucune justice, que la mort de personnes sous main de flics ne connaissent aucun type de justice, je trouve que c'est inacceptable. Je trouve que c'est que l'état qu'on vit ne devrait pas exister.
Bah, la répression, voilà, du coup, je vais rentrer dans les trucs les plus intimes. Moi, j'ai un double rapport. J'ai un rapport à la violence qu'on a vécue, qui a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect violence politique et il y a l'aspect violence humaine, violence par rapport aux relations, notamment par rapport au déchirement d'être séparé d'une partie de toi-même, de ta culture, de ta famille, de l'endroit d'où je viens. C'est-à-dire qu'il y a une partie de mes racines qui m'ont été niées, que j'ai pas vécu, voilà, un truc comme ça. Pas du tout que je me dis « Ah, j'aurais été plus heureux au Chili », pas vrai, mais il y a une partie de plein de rapports sociaux que j'ai jamais pu vivre. Par exemple, un des trucs qui faisait énormément souffrir ma mère, c'était l'éloignement avec sa famille. La famille de ma mère et son 11 frères et sœurs, et du coup, dès 73, c'est fini, elle ne les voit plus, quoi. Elle ne les voit plus, et donc chaque Noël, chaque Nouvel An, chaque anniversaire, c'était une tragédie. C'était vraiment un festival de pleurs.
Ah oui, une coupure claire. Moi, j'ai une coupure... Je pourrais dire, nous, on a une coupure. Je veux dire, ma famille a une coupure forte, énorme. L'exil, il est puissant. Il va nous arracher, quoi. Complètement. Il n'y a pas... on n'est pas vraiment latino, quoi. On ne traîne pas avec des latinos. Un peu comme ça, mais bon, pas vraiment, quoi. Très vite, en plus, c'est un peu présent dans les années 80. Et puis, je pense qu'après 85, il y a plein de gens qui rentrent. C'est fini, quoi. On passe à autre chose.
Ouais. J'ai pas une espèce de... Je me sens appartenir à partout, mais en même temps, il n'y a aucun endroit où je suis pas un étranger. C'est-à-dire que, voilà, il y a toujours une espèce de truc... où je peux sentir que je fais pas partie du lieu, quoi. Ça, c'est des petites remarques, hein, mais c'est les histoires de... Quand on sent bien qu'on est différent, il peut y avoir mille raisons, hein, enfin mille moments, mais voilà. J'en ai vécu des plus ou moins violents. C'est toujours où tu sens que t'es pas chez toi, quoi.
A enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando la falsa emoción, la, el beso fugaz, la mascarita, de la fe, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda ve balcones y saguán, nos
nos esperan. Nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere.